Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Toi, t'es confortablement installé.
Oui, c'est bon, je suis sur ma petite chaise d'enfant, je suis bien.
Mais ça me fait super plaisir que t'aies proposé de se mettre au sol, parce que je suis souvent au sol quand je travaille et quand je bosse, donc j'aime bien ce cadre.
Bah oui, moi aussi, parce que je passe beaucoup de temps par terre à jouer au Playmobil avec les petites ou pour m'étirer ou quoi. Donc, je trouve que c'est presque le canapé moins confort que le sol. Mais bon, après, chacun ses goûts.
Non, mais je te comprends aussi. En tant que papa, je suis très souvent en train de jouer par terre et ça devient le deuxième environnement.
Mais, oui, c'est ça.
Mais en tout cas, déjà, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. On n'a pas la vue, malheureusement, aujourd'hui, la météo n'est pas là, mais on est juste à côté du Mont Blanc. Comment ça va?
Merci à toi de m'avoir proposé déjà de faire ce podcast. C'est mon premier, je suis très contente de faire ça. Moi, ça va, j'ai repris gentiment l'entraînement. Ça a été un petit peu dur, mais, euh, Mais voilà, le corps commence à se réhabituer gentiment. Et la tête commence à, pareil, à re-rentrer un peu dans le moule de l'entraînement. Donc là, on reprend le rythme doucement. Donc,
okay.
Ça va, tout va bien.
Tout va bien.
Ouais.
Bon, bah, écoute, ça fait plaisir à entendre. Tu as dit que c'était dur de revenir, que tu avais pris un petit peu de temps. C'était la saison la plus dense pour toi, tu penses depuis...
Oui. Ouais. Oui, je pense. Par beaucoup de choses aussi, c'est parce que c'était une année olympique déjà. C'est aussi depuis que je suis revenue de maternité, les Jeux étaient mon objectif. C'était vraiment ouais. l'objectif ultime, final, j'ai envie de dire presque, du pari de revenir. Et j'ai vécu énormément d'émotions là-bas. Et en fait, j'ai travaillé tellement de ce retour de maternité jusqu'à cette médaille que... Une fois que la médaille, je l'ai eue, après, c'était la cata. Quoi. Il y a tout qui est retombé parce qu'en fait, j'avais presque 2 ans et demi de travail et de concentration. Je pensais qu'à ça. Quoi. C'était une obsession. Et du coup, ben, la décompression a été aussi forte que où je suis montée en émotion. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à récupérer physiquement, mentalement et aussi à me dire est-ce que je continue quoi. Est-ce que j'ai atteint l'objectif finalement que je m'étais fixé.
Ouais.
Est-ce que ça vaut le coup de continuer, d'aller plus loin? Donc, voilà, ça a été un printemps un peu mouvementé psychologiquement quand même. Physiquement, j'ai envie de dire normal comme tous les printemps parce qu'on a des saisons qui sont quand même hyper denses. Mmh. Mais psychologiquement, ouais, c'était vraiment très dur.
Ouais, bah, je viens de croire. Et puis en plus, tu as dû être accueilli de pied ferme pour ton retour en France, pour les partenaires et la communication, l'Elysée aussi. C'est souvent un message que j'entends aussi des athlètes de haut niveau après une grosse perf. Tu as besoin un peu de te poser, comme tu l'as dit, et de refaire le point, de réfléchir pour te relancer. Et en même temps, tout le monde t'attend et tout le monde se jette un peu sur toi parce que tu es au sommet. Quoi.
Ouais, parce que c'est les Jeux Olympiques qui font ça. Parce que sur des championnats du monde, ce n'est pas le cas. Par exemple, la saison passée, je ramène 2 médailles des championnats du monde et en fait, ce n'était pas la même chose.
Ouais.
L'engouement n'est pas le même. Je trouve que les Jeux Olympiques, ça touche tout le monde, alors que les Championnats du Monde, ça touche presque que notre sport, quoi. Moi, j'ai beaucoup de mal à le vivre, j'ai beaucoup de mal à être dans la lumière, j'aime pas trop ça.
Okay.
Et du coup, c'est vrai qu'en plus, pas de chance, moi, depuis que je suis revenue de la maternité, finalement, on a le Covid. Et ben, ces Jeux, c'était un petit peu aussi. Les Jeux, je trouve que c'est le partage, on peut partager avec tout le monde et tout. Et là, je n'avais pas mes proches. Finalement, cette médaille, j'avais envie de la partager avec mes proches, quoi, parce que c'est eux qui m'ont tenue, qui m'ont aidée. Et je trouve ça, c'était dur, la distance aussi. Et du coup, de revenir en France et de devoir célébrer avec des gens qui sont incontournables pour moi, tous mes partenaires, les sponsors, la Fédé, tout, c'est incontournable. Mais c'est vrai que c'est dur parce que je voulais d'abord partager avec mes proches.
Ouais.
Et en fait, je trouve que c'est ça qui est un peu dur. Et puis moi, je passe vite à autre chose. Donc, je suis rentrée, j'ai célébré. Et 2 semaines après, c'était oublié. Moi, mes médailles, elles sont au fond d'un tiroir. Je ne les ressors pas, quoi. Et c'est vrai que maintenant, il y a des gens que je n'ai encore pas recroisés depuis les Jeux et qui me disent « Ah, bravo pour tes médailles !»« Ah, bah oui, bah, merci !» En fait, pour moi, c'est, voilà, c'est fait, c'est acté et c'est posé, quoi.
Okay.
Mais c'est ce qui me permet d'avancer aussi, de repartir.
Avant le prochain défi.
Voilà, c'est ça.
Et ouais, peut-être pour donner un petit peu d'éléments de contexte, c'était vraiment strict, les conditions sanitaires, du coup, durant les Jeux. J'imagine, famille n'avait pas le droit de suivre,
non.
Les amis non plus.
Alors, on avait en gros personne autre que athlète ou staff ou kiné, enfin, un corps médical avait le droit de venir en Chine. Le village olympique, il était fermé pour le coup. Autant j'ai vécu Pyeongchang, hein, donc quand même Pyeongchang, c'était quand même assez particulier comme jeu parce que on se sentait un peu enfermé, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc on sortait du village, bon, pas spécialement parce qu'en fait il n'y avait rien d'autre à faire. Mais là, quand même, c'était vraiment, on était parqués, test PCR tous les jours. Après, ça changeait pas finalement beaucoup avec ce qu'on avait vécu avant, parce qu'on était dans des bulles sanitaires depuis 2 ans presque sur la Coupe du Monde. La Fédération internationale de biathlon a vraiment fait le job en gros pour que on arrive au jeu en ayant presque aucune chance d'être positif, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'était vraiment pour nous sportifs, c'était bien. C'est vrai que mentalement, c'est quand même compliqué. Hein. On a quand même eu la chance d'être avec d'autres disciplines et d'autres nations. Donc ça, quand même, ça, voilà, on est entre athlètes, entre accrédités. Mais public, amis, non, zéro, rien.
Zéro, ouais.
Hein. Même les médias, finalement, les médias qui nous suivent un peu toute l'année, qu'on connaît un peu, c'était quand même compliqué de discuter avec eux, hors barrière, masque, tout ça. Donc, c'était un peu dur. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça dur.
Ça enlève pas de saveur, j'espère quand même.
Ça enlève pas de saveur. Non, la médaille, on l'a, mais c'est le partage, en fait. Je trouve que. Bon, après, finalement, on nous a célébré quand on est rentré. Mais c'est vrai que sur le moment, je crois que. Je suis sûre que j'aurais fait des meilleurs jeux, parce que moi, je gagne 2 médailles sur les 2 premières courses. Et après, j'ai quand même 4 courses derrière où je passe à la trappe complet, quoi. Et en fait, je suis sûre que si j'avais pu célébrer ma médaille avec mes proches, avec les gens, en fait, avec qui j'avais envie de la célébrer, eh ben, je suis sûre que j'aurais fait des meilleurs jeux. C'est parce qu'en fait, j'avais cette espèce d'émotion qui était « Ouah, j'ai réussi trop bien », mais hyper frustrante. Bah oui, mais bon, bah, je la célébrerai avec ma sœur. C'est cool, c'est bien, quoi. Ouais. Mais j'aimerais la célébrer avec Martin, j'aimerais la célébrer avec ma fille, avec ma famille. Voilà, ça, c'est, pour moi, c'était un peu frustrant. Et peut-être que si j'avais été mieux préparée aussi, en me disant « Tu vas gagner une médaille », finalement, je n'étais pas préparée à gagner une médaille. Enfin, je le voulais, mais on n'est jamais prêt à gagner, je pense. Peut-être que j'aurais mieux vécu mes jeux.
Bah attends, c'est vrai que tu as fait quand même des super jeux. Tu as effectivement 2 médailles sur les 2 premières courses. Je crois que c'est les 2 premières.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est aussi dur de se relancer quand même après 2 victoires. C'est vrai que si tu n'as pas pu célébrer, j'imagine, tu vois, tu te dis, bon, ok, bon, le contrat est rempli. Ouais, presque, c'est ça. Tu vois, ouais. Comment on essaie de trouver de la motivation supplémentaire d'ailleurs dans ces moments-là?
Je pense que ceux qui y arrivent sont. J'ai beaucoup d'admiration pour eux parce que je pense que gagner, ça s'apprend. Mais gagner tous les jours, c'est encore autre chose. Je côtoie plein d'athlètes qui savent le faire. Hein. Ouais. Quentin Fillon-Maillet sait le faire. Hein. Martin Fourcade savait le faire. Marie-Dorin Rimbert savait le faire. Marthe Holbouze, Roy Zeland, la Norvégienne, sait très bien le faire. Eh bien, je ne sais pas comment ils font. Parce que moi, ça me paraît dingue. Vraiment, ça me paraît d'être toujours. En fait, de réussir quelque chose et de se dire, OK. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez rationnel. Hein. Comme je disais, mes médailles, elles sont dans le placard. C'est oublié, c'est rangé, c'est acté, quoi. Mais du jour au lendemain, pas encore. Peut-être d'une semaine à l'autre, OK. Mais du jour au lendemain, je sais pas, je trouve qu'il y a tellement, surtout sur des jeux, en fait, il y a tellement, médiatiquement, c'est tellement fort. On n'est tellement pas habitué aussi à ce qui est tant de demandes médiatiques après une médaille qu'en fait, on est sur notre petit nuage. Et quand on dit, bah, là, demain, les compteurs, ils sont remis à zéro, il faut repartir. Waouh, c'est ouais. Moi, je trouve ça dur. Et moi, j'ai pas la clé. Je l'ai pas trouvé encore.
Est-ce que tu penses que c'est peut-être que justement, tu vois, cet environnement externe, il te prend de l'énergie plutôt qu'il t'en donne, et que justement, peut-être ces champions, tu vois, je pense toujours un peu à Usain Bolt. Tu vois, on sent que au milieu de la foule, il récupère de l'énergie. Ouais. Tu sens que plus il y a de foule, plus il grandit, et qu'à l'inverse. Peut-être dans un stade vide ou sur une piste en Jamaïque, tu vois, une piste en terre, tu vois. J'imagine que ça va être un très grand champion quand même, tu vois. Mais on l'imagine peut-être différent, tu vois, moins dans son.
Mais je pense.
Toi, ça te prend de l'énergie?
Ben, moi, je pense que oui, ça m'en prend de l'énergie. En fait, j'ai l'image, par exemple, de la Coupe du Monde du Grand Bornand où quand je suis sur la piste pendant la course, ça me donne de l'énergie. Ça, la foule qui encourage et tout, ça, j'en suis convaincue. Mais c'est vrai que sur la phase d'échauffement, là où j'ai besoin d'être concentrée, et ben en fait, je suis presque plus concentrée à pas écouter tout ce qu'on me dit ou tout ce qu'on m'encourage. Et ça, je pense que ça me prend de l'énergie. Ou comme après une bonne course, aller répondre à des médias. Ça fait partie de mon job, je le fais, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui aiment plus ça que moi. Et oui, je pense que ça me prend de l'énergie. En tout cas, ça m'en donne pas. sur le moment de la course, je pense que ça m'en donne. Mais par contre, la course est finie, c'est bon. On tourne la page et je vais dormir ou je vais récupérer, peu importe. Mais c'est vrai que oui, c'est toujours un peu conférence de presse et ces choses-là. C'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon truc. Moi, je fais mon sport. Et pendant que je fais mon sport, j'aime bien être encouragée. Et après, basta, quoi. On arrête. Mais comme sur un entraînement, par exemple. Je vais m'entraîner chez moi ou peu importe où, ça vient toujours d'une bonne intention. La personne qui dit « Ah, bravo pour ce que tu fais !» Mais en fait, ben, c'est plus le moment. Moi j'adore sur la compétition qu'on me dise « T'as fait une belle course, bravo !» Mais quand je m'entraîne, ben, je suis dans un autre mode. Et pourquoi il me dit « Bravo !» Je cours, quoi. Enfin, en fait, mais c'est vrai que je pense qu'on est un peu tous différents là-dessus. Mais je pense que je suis bien plus performante dans le... quand je suis cachée que quand je suis en lumière.
Je comprends tout à fait, tu vois, et la phrase que tu as utilisée qui a beaucoup résonné en moi, c'est je perds plus d'énergie à essayer de rester dans ma bulle et de pas écouter. Je sais pas si tu médites, tu vois, mais j'ai des copains ou même je crois que j'en avais parlé avec René Lamotte, tu vois, je lui disais pour moi méditer c'est un vrai effort.
Oui.
De couper les pensées, de couper tout et de rester dans ma bulle, c'est un vrai vrai effort. Et bon, du coup, maintenant, je le fais mieux quand il y a des distractions. Mais c'est, je sais pas pour toi, tu vois, mais c'est effectivement, ça prend de l'énergie quand tu as plein de gens autour.
Mais alors, tu vois, moi, je médite pas, mais je tire. Et c'est là où le parallèle,
parlons-en, ouais.
Voilà, il est vraiment flagrant pour moi. C'est que quand je tire en compétition, je suis dans ma bulle, je n'entends rien. On peut me crier dans les oreilles, la foule, enfin, je n'entends rien de mon tir. J'entends pas les autres. Et je sais que si j'entends les autres, je vais rater. C'est une, enfin, ouais, je le sais.
Bien sûr.
La foule qui crie quand il y a une bonne balle, c'est le haut. Enfin, la bonne balle, c'est ouais. La mauvaise balle, c'est le haut. Ça, j'entends rien. En fait, quand je regarde les images, je me dis ah ouais, mais il y avait vachement de bruit en fait. Ouais. Mais par contre, hors course, j'entends tout. À l'entraînement, quand j'ai une mouche qui me bidouille dans l'oreille là.
Même quand tu tires.
Ouais. Bah surtout quand je tire en fait sur cette partie de tir, ou quand quelqu'un vient me parler à l'entraînement quand je suis en train de tirer, ça me dérange beaucoup. Et en course, ça me gêne pas. Donc je pense que bah, je l'ai peut-être travaillé, mais voilà, c'est qu'en course, je suis dans un état où en fait, il peut se passer plein de choses. J'entends pas, je me rends pas compte. Par contre, la course, c'est la course. Et le reste, je suis hyper perturbable. Okay. Mais pour tout. Hein.
Okay.
Et donc, quand tu dis, tu vas méditer, les pensées qui passent et tout, nous, en tir, c'est quelque chose qu'on doit absolument apprendre à gérer. Ouais. C'est que, évidemment, que quand tu joues un titre olympique ou peu importe, sur une 20e balle, tu as la pensée qui va venir en disant « Ah, si tu mets cette balle, tu ouais. gagnes. Si tu la rates, tu perds. » Et ça, en fait, nous, dans le tir, on doit vraiment l'apprendre à gérer parce que c'est impossible de ne pas y penser. C'est pas humain de ne pas y penser.
Ouais, bien sûr. Tu l'as vécu là cet hiver en
ouais,
plus.
Ouais, on le finalement sur, fois, sur course. Beaucoup de courses, peu importe l'enjeu. Le dernier que j'ai en tête, c'est je sais plus, je devais je crois que c'était pour notre table de jardin. Martin, il m'a dit OK, on achète la table si tu tires à 10. Ouais, c'est des petits défis à la con, mais moi, ça me. À la 10e balle, j'y ai pensé, j'ai mis la 10e et je suis partie en rigolant en me disant ma table de jardin, allez hop, elle est là demain, quoi. Donc en fait, pour plein de petits trucs comme ça, la pensée, elle vient. Comme quand tu médites, en fait, la pensée, elle vient, il faut juste apprendre à la gérer.
Comment tu la gères, toi ?
Eh ben, ça dépend. En général, je les laisse passer. J'arrive à les laisser passer. C'est assez rare que vraiment, ou j'ai pas trop de souvenirs ou vraiment avoir m'être fait embêter par une pensée. Alors, ce que je fais, ce qui est pas forcément la bonne solution, mais c'est que des fois, je tire avant qu'elle arrive. Et donc ça, c'est souvent que la balle elle est dehors sur une par exemple ou une 20e balle ou une 10e balle, la ouais. dernière balle d'un tir. La dernière balle, c'est psychologique. Hein. C'est ouais. où tu la mets. Enfin, voilà, c'est comme tout, n'importe quoi. Bah, des fois, elle part plus tôt. Je me dis, oh, je vais penser, je la lâche. Et en général, okay. elle est à côté souvent.
Okay.
Des fois, elle est dedans parce qu'il y a de la réussite et ça le fait. Mais ouais, c'est quand même. La gestion de la pensée sur le tir, elle est quand même hyper importante. Ouais. Après, il y a du travail psy hein, là-dessus, de préparation mentale aussi qui existe.
Vous en faites tous un peu de. Enfin, vous imaginez, vous avez tous vos petits trucs.
Je pense qu'on a tous nos petits trucs. Je suis pas sûre que tout le monde travaille avec un prêt mental ou un psy. Mais parce que aussi, on est derrière la cara depuis quand même quelques années. Et je pense ouais. qu'on apprend aussi par l'entraînement à se préparer mentalement et à gérer ses pensées. Mais oui, certains athlètes bossent, oui, en fait. Ouais. Mais comme dans tous les sports. oui. Je suis sûre qu'il y a des tips aussi hein, de prep mental là-dessus.
Ouais, l'hypnose, ça doit beaucoup ouais. aider. Enfin, vous êtes tellement concentré que ça doit.
Oui, c'est ça en fait.
Vous êtes un peu sous auto-hypnose.
Ouais,
d'ailleurs.
Je pense. C'est le fameux flow aussi, hein, ouais. ce qu'on appelle dans le sport. C'est vrai que, enfin, moi, par exemple, ma médaille au jeu en individuel, le matin, je me suis levée, je savais qu'il allait se passer quelque chose. C'est fou, okay. et en plus, je l'ai écrit. Je l'ai écrit parce que j'ai beaucoup écrit pendant ces jeux, justement parce que j'avais besoin de chanter que émotionnellement c'est quand même compliqué. Et je l'ai écrit. J'ai dit, bah là, aujourd'hui, je me sens trop bien. Tout va bien. Tout roule. Ouais. Et en fait, bah, à la fin de la journée, le bilan, c'est que, bah oui, tout a roulé, quoi. Mais bon, le piège, c'est de vouloir toujours retomber là-dedans. Et ça, c'est compliqué. Je pense que c'est un état émotionnel. Tu te lèves le matin, tu l'as. Et si tu l'as pas, tu pourras pas l'avoir.
OK.
Tu pourras pas aller le chercher. Enfin, moi, en fait, c'est ça. C'est que ça sert à rien d'aller le chercher parce que. Si je ne l'ai pas en me levant, il va falloir que je fasse 100. Quoi. Après, ça ne veut pas dire que je vais faire une mauvaise course, mais il va falloir que je fasse 100.
Ouais, ouais, tu es arrivé. De toute façon, même, je pense qu'il n'y a personne qui arrive à le provoquer réellement.
Bah, après,
tu peux juste te conditionner en fait, pour rentrer dedans petit à petit et faire tout ce qu'il y a à faire. Enfin, dans les
oui, bouquins en fait,
de prépa mentale ouais. que je lis, en fait, c'est la seule chose qu'on te dit, c'est fais tes routines, fais tes rituels. Et en fait, petit à petit,
Peut-être.
Tu peux peut-être te conditionner pour ouais. arriver dedans.
C'est vrai que j'ai pas
c'est
de
sûr,
réponse.
C'est sûr que si tu le fais pas, tu n'y arrives pas.
Oui. Oui, oui, oui. Mais... ça, c'est sûr. Mais je pense que pour le coup, la routine, elle est importante dans le sport. Enfin, bon, après, peut-être qu'il y en a. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Je dis routine et je dis pas toc éthique, hein, parce que j'ai regardé le match de Nadal-Djoko hier, c'est juste hallucinant. Nadal est juste hallucinant dans aligner les bouteilles et tout. Enfin, moi, ça...
Mais t'as lu son livre ou pas?
Non, j'ai pas lu son livre.
Parce qu'il explique pourquoi il le fait, en fait.
Eh ben, ça,
lui, c'est sa manière de justement de chasser toutes les pensées. Et c'est sa manière de se conditionner pour que la seule pensée qui existe, ça soit gagner quoi, oui. et marquer le point. Quoi.
Ouais, mais voilà, donc chacun ses trucs. Ah bah, je lirai à l'occasion.
Ouais. Ouais,
mais ça me paraît dingue aussi, en fait. Parce que moi, j'imagine toujours dans l'autre sens, je me dis, mais si on lui fait tomber ses bouteilles, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est con comme question.
Ouais.
Mais est-ce qu'il arrive à quand même à rester dans son truc, à rebasculer dans son truc ou pas? Bon, bah, je lirai son livre alors, ça sera au prochain été.
Est-ce qu'il en parle? Pour lui, ouais, c'est le sentiment de contrôle.
Ouais, de contrôle.
De contrôle de la situation, de dérouler des étapes, tu vois, et ça le conditionne, quoi. Ça le conditionne. Il se pose plus de questions sur est-ce que je joue bien, est-ce que je joue mal.
Ouais,
en fait, il fait ses petits tics et.
Mais c'est
et
juste dingue.
Ça le met dedans, quoi.
C'est juste dingue. Ouais.
Mais en plus c'est marrant parce que chez lui c'est hyper visible.
Ouais.
Je pense qu'il y a d'autres athlètes, tu vois, ça doit être aussi très visible, mais enfin ça doit être marqué mais peut-être moins visible.
Oui, oui, puis c'est peut-être
c'est pas
avant
le slip, c'est pas les
voilà c'est, voilà c'est quoi. Avant c'est ce que j'allais dire, c'est dans la préparation quoi. C'est vrai que lui c'est vraiment chaque service, c'est tout le temps quoi, c'est vraiment hallucinant.
Toi c'est quoi tes petites routines sans parler de
en fait
coups de toc,
voilà mais... moi j'ai pas trop de petits coups de toc. Je mets pas toujours la même paire de chaussettes, toujours le même sous-vêtement, tout, c'est pas trop ça, mais c'est plus que j'ai besoin juste d'être dans ma tête, d'être OK avec moi. Donc, trouver le matin le truc pour partir à la course en me disant OK, je suis bien dans ma tête, quoi. Peut-être que ce jour-là, j'ai besoin d'aller courir 30 minutes avant la course. Peut-être que ce jour-là, j'ai besoin d'aller marcher dans la neige. En fait, j'ai du mal un peu à l'avance à savoir ce qui va me faire du bien. Mais bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que ma boîte mail, je ne l'ouvre pas avant une course parce que, non, mais un mail un peu qui te met dans le jus ou quoi, tu dis, oh non, et puis en fait, ça va m'obséder toute la journée. Et ouais. En fait, je vais passer du temps à essayer de régler ce mail et je vais en oublier d'être bien dans ma tête avant de partir à la course, quoi, et ce sera trop tard. Donc, ouais, c'est plus partir à la course en étant, voilà, que ce soit, bon, après, mes collègues de chambre diront, oui, bah, ta chambre, elle est bien rangée quand tu pars en course, c'est vrai. Il faut que je sorte de la chambre, il faut que ce soit quand même assez bien rangé. Voilà, enfin, en fait, il faut que ce soit.
Ton sac est très rangé?
Pas forcément mon
avec
sac.
Les carabines, les skis.
Pas forcément mon sac de course, mais je pars de la chambre, il n'y a rien qui traîne, quoi. Mais parce que c'est comme ça dans ma tête aussi, en fait. C'est rangé dans ma tête, c'est rangé dans mon corps, c'est rangé dans ma chambre, et voilà, tout est en ordre. Je peux y aller.
C'est ça, c'est comme ça que tu trouves ton contrôle.
Ouais.
Tout bien
c'est
rangé.
Dans le
être ordonné.
La rigueur. Quoi.
Ouais. Mais je pense que dans le sport, il en faut quand même une bonne partie. Après,
j'en connais qui n'ont pas besoin de ça. Hein, mais
non, mais tu sais, où ils cloisonnent. Des fois, il y en a qui cloisonnent, qui sont très très désordonnés sur certaines choses.
Oui, mais certainement.
Et très très routiniers sur d'autres et sur d'autres habitudes, quoi.
Je pense que oui, je pense à quelqu'un en particulier qui lui a pas besoin de ranger sa chambre avant d'aller faire sa course. Mais il doit.
Ça ne pas de nom.
Ouais, non, ça ne pas de nom. Mais oui, certainement qu'il trouve en fait. C'est ordonné ailleurs.
Bon, c'est hyper intéressant. Bon, on va revenir quand même après à l'enfance. Il faut quand même que je te pose la
même.
Question traditionnelle. Mais juste pour terminer sur le tir, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et je me suis amusé à regarder quelques courses de toi. Tu vois, un peu les highlights. Et,
ouais.
Et j'ai eu en fait l'impression au niveau respiration que quand tu arrives, tu t'imposes un rythme de respiration. La respiration, elle est forcée.
Oui.
Pour faire baisser sûrement ton rythme cardiaque, j'imagine.
Oui.
Avant de tirer.
Oui.
C'est ça.
Bah en fait, d'une certaine manière, ça.
Explique-moi comment.
Alors,
tu fais,
c'est marrant parce que cette question intrigue beaucoup et j'ai rarement la réponse. Baisser le rythme cardiaque, par exemple, c'est quelque chose. En fait, on s'entraîne toute l'année à arriver essoufflé sur le pas de tir, mais à des fréquences qu'on appelle nous de DT1, donc aux environs de 160, enfin à la louche, quoi.
Ouais, ok.
On est
à 80% de.
Ouais, c'est ça, un peu
de
près.
Votre fréquence.
Ouais, c'est ça. Okay. Donc ça, c'est la majorité de notre entraînement. On arrive sur le tapis à cette fréquence-là. Donc c'est quelque chose, on n'est pas essoufflé. Enfin, en tout cas, on n'est pas en dette d'oxygène. C'est facile pour nous de respirer. Après, en course ou quand on fait des intensités, c'est autre chose. Ça, en fait, ça s'anticipe. Tout ça s'anticipe tout le temps parce que si tu arrives en dette d'oxygène sur le tapis, ton cerveau, il fonctionne moins bien et tu es moins lucide. Donc,
tu mets du temps à t'en remettre.
Voilà, exactement. Après, chaque athlète a un peu ses routines, mais moi, j'arrive sur le pâtir, par exemple, à la cible 30. Mon effort, c'est pas que je le coupe, mais je le ralentis. Je vais pas aussi vite dans la dernière bosse qu'à la cible 30, par exemple. Après, c'est tout des rituels. Je m'impose de respirer, comme tu l'as vu. C'est je souffle, j'expire, je souffle, j'inspire. Et en fait, ça me permet de gentiment arriver au tapis sans avoir ces pensées qui te parasitent parce que tu es concentré sur quelque chose en fait, de concret. Respirer, s'oxygéner le cerveau. C'est pas forcément, tu vois, c'est pas faire baisser son rythme cardiaque. C'est plus oxygéner le cerveau.
Qu'est-ce que
j'ai à faire? Ouais, qu'est-ce que j'ai à faire sur mon tir? Qu'est-ce que je veux mettre en place sur mon tir? C'est vraiment être concentré là-dessus. En fait, occuper son cerveau pour pas penser à l'enjeu. Et ensuite, après, une fois que tu es sur le tapis, tout le tir couché, c'est que de la respiration, en fait.
Tu tires, une inspire, une expire.
On tire sur l'expire. À poumon, les deux tiers vides, à peu près. Tout le temps. Donc, en gros, tu as les cinq cibles. C'est dur de raconter son schéma.
Les gens connaissent très bien le biathlon.
Mais du coup,
on
en fait,
les cinq cibles de tir.
Quand tu inspires, tu as carrément et quand tu expires.
C'est l'inverse.
Quand tu inspires, oh punaise, la honte. Tu sais que ça fait 2 mois que je n'ai pas tiré. Je vais me faire dégommer au prochain stage. Quand tu expires, ta cara monte. Donc, tu inspires, ta cara descend, tu expires, ta cara monte. Et nous, on tire sur une expiration. Donc, ça veut dire que tu arrives en couché, tu arrives par le bas, ta cara monte, poumon 2/3 vide à peu près, tu tires et tu finis ton expi.
Ok.
Voilà, donc en gros, ta cara traverse la cible.
C'est marrant que tu dis ça parce que quand on regarde les images, on a l'impression que ça bouge pas d'un poil.
Ah si, ça bouge. Mais après, ça bouge. Quand je te dis que ça bouge, tu sais, nous, notre cible couchée, elle mesure 4,5 de diamètre. Donc, ça bouge, aller peut-être 10 en bas, 10 en, sur 30 cm, quoi. Donc, ça veut dire qu'à 50, même pas 30 cm, j'ai des bêtises, 20 cm. Tu vois, ça veut dire que. 20 cm, c'est quand même pas grand chose en soi.
Mais sur l'échelle d'une carabine, c'est quelques
millimètres. C'est pas grand chose. Et donc, du coup, voilà, c'est. Là les puristes du biathlon vont me dégommer. Elle ne sait même plus tirer. Non, c'est vrai. Je ne sais plus tirer. Et le tir debout, par contre, c'est un peu différent parce que le but, c'est de garder la carabine à hauteur. Il y a beaucoup moins de bouger verticaux. C'est vraiment du latéral. Donc, en fait, le but, c'est de garder ta cara à hauteur. Après, évidemment, que tu bouges un petit peu parce que tu respires. Donc, forcément, que ta cara, elle se déplace un peu. Mais c'est plus. La cara bouge beaucoup moins en verticalité. Mais couché, c'est la base du tir couché. C'est verticalité.
Ok, avec respiration.
Avec respiration, c'est vraiment la respi qui rythme le tir.
Et on a l'impression aussi quand tu tires qu'il y a vraiment, que tu tires à une certaine fréquence.
Oui.
Ça aussi, c'est pour vous empêcher d'avoir des pensées, je sais pas, on va dire 2 secondes, paf.
Ouais, mais en fait, c'est vraiment calé sur la respi.
Sur la respiration.
Moi, je sais que jusqu'à l'année dernière, je respirais 2 fois entre chaque balle, par exemple. Donc, ça faisait à peu près un peu moins de 2 secondes entre chaque balle, du 1,8, je crois. Et là, je suis passée à 1 respi entre chaque balle parce que je voulais accélérer mon tir, parce que je voulais perdre moins de temps sur le pas de tir aussi. Ça permet d'accélérer le tir, mais tout en gardant la qualité, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Et maintenant, je suis plus passée à 1,5 secondes entre chaque balle, à peu près.
Donc, une respiration unique, mais un peu plus
longue. Pas forcément plus longue, mais ça veut dire qu'il faut être... Ça demande un peu plus d'exigence, en fait. Il faut être là tout de suite, quoi. Ça te laisse pas le temps de penser. Ça veut dire que tout doit être prêt, en fait. Ton doigt, il doit être prêt. Ton œil, il doit être... Il faut être tout là. Il faut vraiment.
Tu mets pas ton tir en pause, en fait. T'es vraiment t'enchaînes.
C'est ça. Okay. Il y a le doigt, pareil. Le doigt est très important en tir sur la détente. On a 50 grammes au début sur la détente et ensuite le coup part. Il y a 50 grammes d'abord et ensuite le coup part. Et ça veut dire que les 50 grammes, il faut qu'ils soient avalés en 1,5 secondes. En gros, à chaque fois, on reculasse, on avale les 50 grammes et ensuite on lâche le coup. Parce que celui qui. Alors, il n'y a plus la vidéo, mais je te le montre à toi. Celui qui tire en faisant ça. La balle, elle sera pas dedans parce que la carabine bouge beaucoup trop. Donc, la prochaine fois, si tu veux, tu regarderas une vidéo, tu regarderas mon doigt. Et en fait, le doigt, il ne bouge pas au départ du coup. Parce qu'il y a juste une mini pression à appuyer pour que la détente elle s'enclenche et que la balle parte.
Ok. Waouh, c'est passionnant.
C'est un peu technique.
Ouais, mais moi j'adore. Je sais que les auditeurs aussi, ils aiment bien quand on parle sur des détails. Tu vois, parce que ce genre de choses, effectivement, tu le vois pas déjà à la télé.
Non.
Ou tu t'en doutes pas quand tu connais pas bien le sport. Et pour vous, ça vous semble tellement naturel que du coup, on s'en rend pas compte. Et du coup, comprendre ce degré de précision, ce degré de performance, cette recherche du moindre détail, je trouve que c'est passionnant et on le comprend quand même très bien avec des mots.
C'est ce qui est très dur aussi pour nous d'expliquer, c'est que nous, on le fait tellement automatiquement que c'est dur de l'expliquer. J'ai eu la chance, moi, pendant que j'étais enceinte, justement, d'aller avec des jeunes, d'entraîner des tout jeunes. C'était la première fois qu'on habitait derrière une carabine à 50 mètres.
Okay.
Et ben, c'était super dur comme exercice. Hyper intéressant pour moi, parce que du coup, j'ai dû mettre des mots sur des choses qui étaient tellement faciles pour moi. Mais finalement, j'y suis passée par là. Quand je me revoyais dans ces gamins, moi, ma première séance de tir, c'était pareil, quoi. Je ne savais pas comment remettre la cara au dos, toutes ces choses-là. Mais c'est hyper intéressant de mettre des mots sur ce que tu fais. Tu vois, je te parlais, cette respiration, ce doigt et tout. Et en fait, ça m'a beaucoup apporté, moi, alors que je sais très bien le faire. Mais en fait, des fois, ça ne marche pas. Tu te retrouves dans une impasse, tu ne sais plus. Tu te dis, bon, OK, je reprends les bases, OK, le doigt, le machin, le truc. Et ça permet de dire, ah oui, c'est vrai que je fais ça. Ah, mais je fais ça. Alors que je ne pensais même plus que je le faisais. Et c'est vrai que je le fais. Et c'est hyper intéressant d'en parler. C'est super dur, mais c'est hyper intéressant.
Non, mais en plus, tu vois, souvent, les athlètes de haut niveau, on est un peu plus sensoriel. On est dans le faire, tu vois, on ressent plus les choses. Moi, je suis aussi beaucoup dans l'audio, voilà, mais tu vois, je sais que je ne suis pas du tout visuel. Quand j'apprends quelque chose, j'ai besoin de l'entendre et de le faire. Et chez tous les athlètes de haut niveau, ça se retrouve, quoi. Tout est dans le sensoriel, dans le faire, dans le
essayer, quoi.
Dans le essayer, et effectivement, et le ressentir soi-même. Donc, ça ne m'étonne pas que ça ne soit pas si facile.
Non, c'est
hyper dur comme exercice.
C'est super dur.
Bon, en tout cas, c'est passionnant. Et qu'est-ce qui t'a... Si on reprend un peu
le fil,
allez, on recommence depuis le début. Non, je rigole. Comment est-ce que tu tombes dans ce sport à l'origine?
Alors,
sport qui est militaire quand même, tu vois.
Ouais, donc à la base, c'est un sport militaire. Mais moi, complètement par hasard. Je viens d'une famille de sportifs, pas du tout compétiteurs, mais hyper sportifs. J'ai toujours fait du sport depuis que je suis gamine. Beaucoup, enfin, j'ai touché beaucoup à tout. J'ai découvert le ski de fond à l'école primaire. En fait, donc vraiment sport scolaire, typique, sur des traces alternatives et tout. Là, j'ai dit à ma mère, maman, c'est terrible ce truc. Enfin, je veux pas y retourner, quoi. C'est horrible, en fait.
Le ski. Donc, premier souvenir sur des skis.
Voilà, c'était vraiment, je veux pas y retourner. Et j'ai eu la chance d'essayer le skating. Enfin, il y avait un groupe basique alternatif et puis ceux qui veulent essayer le skating. Donc, j'ai essayé ça et je trouvais ça...
Quelle est la différence ?
Quand même plus fun. Et ben, alors, le ski alternatif, tu es dans les traces de ski de fond et c'est du style classique, en fait. C'est vraiment, tu sais, tu marches... Okay. Enfin, pareil, je vais me faire tuer si je dis ça. Tu marches en glissant, quoi.
Ouais,
tu vois, c'est le style alternatif. Le style skating, c'est le pas de patineur.
Ouais.
Voilà. Okay.
Et dans le skating, il y a plusieurs temps. Il y a le
oui,
tu as
le un temps,
temps
le deux temps de base, okay. Le combiné.
J'en ai parlé un petit peu avec Benjamin Davier, ouais. Donc je t'en mettrai pas.
Ok, bon, comme ça, se référer à Benjamin pour la technique.
Et non, mais du coup, lui, c'était intéressant, tu vois, par rapport à son handicap, de comprendre, tu vois, quel style il pouvait adopter, quel style il peut moins bien adopter et tout. Donc,
découvert ça à l'école et le skating m'a tout de suite beaucoup plu. J'ai trouvé ça beaucoup plus dynamique, plus fun, quoi.
Ouais.
Mes parents m'ont inscrit dans un club. Et puis l'entraîneur du comité, Thierry Dussert, qui est toujours entraîneur des comités d'ailleurs, faisait un peu le tour des clubs pour recruter, enfin en tout cas pour faire essayer le biathlon et pour recruter éventuellement les meilleurs. Et au début, c'est du tir à 10 mètres, tir à plomb. Comme, de loin, comme ça ressemble, mais c'est quand même pas pareil hein, que le tir à 5. Nous, on tire à 50 mètres avec des 20 de long rifle, donc c'est vraiment des vraies armes, des vraies balles. Il m'a fait essayer, il m'a donné un brassard. Et il m'a dit, garde-le, tu me le rendras bientôt. OK. Et effectivement, je suis rentrée après au comité en cadette. Hein, je ne sais plus les âges, hein, mais voilà. Donc, ça s'est fait, en fait, c'est des rencontres un peu par hasard. Et puis après, je suis allée en sport-études à Villard-de-Lans et j'ai commencé à perfer. J'étais pas la plus rapide en ski, loin de là, parce que du coup, j'avais commencé assez tard avec des gens. J'étais avec des gens qui avaient toujours skié en ski de fond. Donc, j'avais quand même un peu de la technique en retard et tout ça. Mais bon, j'avais j'avais la caisse quoi des autres sports que j'avais fait. Mais par contre, j'étais excellente tireuse. Et c'est ça qui m'a permis de réussir très tôt, très vite. Ouais. Okay. J'ai toujours très bien tiré. Et en fait, bah, maintenant, ma marge de progression, elle est plus en ski qu'en tir. Et finalement, le tir, c'est pas acquis. C'est pas vrai, parce que c'est jamais acquis. Mais j'ai beaucoup plus de facilité en tir. Ce qui me permet du coup le corps fait que on sait que le plein potentiel d'un athlète d'endurance c'est aux environs de 25-30 ans, donc voilà, ça m'a laissé le temps du coup de bosser vraiment sur la technique en ski et l'endurance. Je dis pas en délestant le tir, mais au moins le tir était pas un problème quoi. Voilà.
Ouais, donc ça marchait bien,
donc j'ai pu vraiment axer sur le ski plutôt.
C'est à quel âge qu'on te donne une carabine? Vous avez 12-13 ans, je crois. Avant, c'est pas possible, non?
Eh ben alors moi, mais ça a changé maintenant. Je crois que maintenant les moins de 13 ans, moins de 15 ans. Donc 13 ans, oui, tu as le droit maintenant de tirer à la carabine. Okay. 20 de long rifle, mais moi quand j'étais jeune, je crois que ma première cara c'est plus vers 15 ans.
Et ça a tout de suite marché du coup avec ce fameux brassard.
Oui, bah en fait.
C'est quoi d'ailleurs le
brassard? Alors le brassard c'est quelque, donc pour les droitiers on l'a autour du bras gauche et ça permet en fait de, quand on est en position couchée, de faire un trépied entre notre coude droit qui est posé au sol, notre main gauche qui est sous la carabine et une bretelle qui est accrochée au brassard sur le biceps. En fait, ça permet de vraiment faire un trépied et ça fait qu'on est hyper stable.
Ouais. La main ne bouge plus, en fait.
La main ne bouge plus. Et en fait, mais même tout, les épaules, en fait, tout est tenu. Les épaules, voilà. C'est pas du tout une veste comme en tir sportif, hein, par contre. Tir sportif, ils sont vraiment, ils peuvent presque pas bouger, ils sont dans un carcan. Ouais, ça permet juste, en fait, de faire un triangle et de pas que ce soit plus stable.
Ouais. Je mettrai des photos pour expliquer
pour
tout ça.
Parce que c'est super dur.
C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant d'avoir ce degré de technique, je pense. Tu vois.
Et en fait, au début, on tire avec un appui. Donc, le canon est posé sur une bûche en bois, hein, tout bêtement. Donc, ça permet de faire cet appui, ce triangle avec le canon. Et le brassard, c'est un peu plus technique. Et nous, par exemple, tirer sans brassard maintenant, c'est quand même compliqué. Bah, c'est possible parce qu'on a un peu de technique et tout, mais. C'est quand même compliqué. Ça fait vraiment partie de notre carabine. C'est un élément de la carabine qui est vraiment important.
Et comme tu le disais, tu as eu des résultats très jeunes, très tôt. Il me semble que tu es vice-championne du monde à 18 ans, chose comme ça, en junior.
En junior, j'ai eu...
Vous êtes même avant
2011, j'étais jeune encore, je crois même.
Tu as 18 ans, du coup.
Ouais, c'est ça. Donc, mais même moins, presque. Enfin bon, bref. C'est ma deuxième année de jeune. Oui, j'ai eu donc médaille de, je sais même plus, bronze, argent.
Je te dis, ce que j'ai vu sur ta fiche Wikipédia, j'ai vu elle est vice-championne du monde chez les juniors 2011 et 2012.
Voilà,
deux
c'est
ans
ça.
De suite.
Ouais, deux ans de suite en sprint. C'est vrai. C'est tôt, mais. Bon, je veux dire, il y a des championnats du monde qui existent à cet âge-là, donc ça veut dire qu'il faut aussi être performant à cet âge-là, quoi. Donc, c'est tôt et c'était assez, c'était assez surprenant. Je pense que j'étais pas donnée comme, en tout cas, au sein de la fédé de ski en France, j'étais pas la meilleure. À l'entraînement, j'étais pas la meilleure, loin de là. Voilà, bon, bah, comme quoi, des fois, sur des courses, ça me met parce que j'avais le tir. Encore une fois, le tir est tellement important à cet âge-là que je tirais bien. Encore maintenant, enfin, je veux dire, mais je trouve que il y a des très très bons skieurs et des skieurs qui sont moins bons, logique, à cet âge-là. Et la diff se fait sur le tir, en fait.
Ouais, parce que j'imagine qu'à 18-20 ans, si ça fait 3-4 ans que tu tires, tu fais pas du 5 sur 5 tout le temps, quoi.
Non, tu fais pas du 5 sur 5, mais si
et
tu le
fois,
fais,
tu peux faire du...
ça marche. En fait, parce que je pense que sur ces deux, j'en suis même sûre, je tire à 10 sur 10 sur ces deux courses. Donc voilà, maintenant on prend les stats de la Coupe du Monde, des 10 sur 10, on n'en fait pas tous les week-ends, et loin de là. Donc ça veut dire que si tu arrives à les faire en jeune ou en junior,
tu prends beaucoup d'avance.
C'est que quand même, ça te met un bon point dans la sacoche. Après, tu fais ce que tu peux en ski, mais au moins ça s'est fait. Et moi, je suis plus d'avis d'avoir un très bon tir très jeune plutôt qu'un très bon ski, parce que le ski, ça se travaille tout le temps. Le tir, je trouve que c'est plus dur.
C'est un conseil pour les jeunes qui nous
écoutent. Il faut travailler au tir.
Et comment tu le vis, ce palmarès précoce?
Ça va, pas trop mal parce que on est quand même un sport assez confidentiel et que du coup ça se sait pas déjà très peu en tout cas. Je sais pas, je pense à des athlètes, Sacha Zoya. Je sais pas pourquoi c'est le premier qui me vient comme ça, ou son palmarès, il est tellement déjà mis en avant à son âge qu'il doit avoir une pression de dingue. Je le connais pas, mais ça doit être fou en fait. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il s'aligne, on attend lui qui gagne. Moi, c'était peut-être ça, mais c'est un sport hyper confidentiel en France. Enfin, en tout cas, il y a quelques années, ça l'est encore beaucoup, mais il y a quelques années, ça l'était encore plus. Donc ouais. Ok, elle est vice-championne du monde junior. Bon, oui, bon, de toute façon, en junior, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est être fort plus tard. Je l'ai pas mal vécu. Mais c'est des points de passage importants. Parce qu'avec le recul, je me dis, ouais, c'est dur d'aller chercher des médailles sur des championnats. C'est quand même, c'est quand même challenge, quoi. Mais je l'ai pas mal vécu. En tout cas, je pense jamais avoir pris la grosse tête ou quoi que ce soit. ça m'a pas desservi, en tout cas.
Ouais. Est-ce que tu croyais au haut niveau avant ces résultats-là?
Peut-être que non. Parce qu'en fait, j'ai pas été baignée dans la compète. Pourtant, j'ai fait beaucoup d'athlètes, j'ai fait beaucoup de cross. Pareil, je gagnais pas. J'ai jamais gagné, moi. J'ai toujours été deuxième ou troisième. J'ai jamais gagné. Mais j'étais toujours là, en fait. Oui, je pense que c'est hyper gratifiant de gagner, mais je vis pas pour ça. Moi, je vis plus pour la belle perf. C'est ouais. Comme sur un match de tennis, je suis pas pour lui ou pour lui, je suis pour celui qui joue le mieux. Enfin, voilà, moi, je suis pour le beau sport. Ouais, c'est plus ça.
Mais la question un petit peu sous-jacente de ça, c'est à partir de quel moment ça devient un peu réalité? Ou à quel moment ça se concrétise? Tiens, le biathlon, ça peut être mon sport et ma vie. C'est avant?
Je pense peut-être... que c'est, ouais, c'est avant de fin du collège parce que je voulais absolument aller au sport études à Villars,
okay.
Villars-de-Lans, qui prenait qu'à partir de la seconde
et là, que c'est
et c'était devenu un objectif pour moi, okay. Le collège, ça peut être une très belle période, le collège, pour plein de choses, parce que je trouve que c'est un âge quand même qui est un peu terrible. Cet objectif d'aller à Villars-de-Lans en sport-études, c'était l'objectif, quoi. Il me reste encore 2 ans à faire au collège, 1 an à faire au collège avant d'y aller. Et à partir du sport-études, on retombe encore une fois sur Thierry Dussert, qui lui, il m'a beaucoup apporté parce que ouais. Il m'a dit, ok, t'es là, tu viens de loin, parce que t'es pas une fille du Vercors, donc tu skis pas depuis que t'as 3 ans. En fait, c'était un petit peu ça. Il va falloir que tu travailles beaucoup, mais si tu travailles, tu vas y arriver. Mais par contre, il va falloir que tu travailles. Ok, ouais. Bon, je vais travailler alors. Et j'ai travaillé. Hein, et il m'en a fait baver. Mais c'est grâce à lui qu'il m'a donné cette rigueur, en fait. Et ce travail, et des heures en position devant un miroir à ne pas bouger, que la cara, elle ne bouge pas d'un pet. Justement, pour que, quand tu dis que notre cara, elle ne bouge pas, c'est parce que ça, on y passe des heures et des heures à tenir ta cara et qu'à la fin, tu trembles, t'en as marre, t'as mal partout.
C'est vrai.
Mais okay. Ouais, mais en fait, pour s'apprivoiser cette position, quoi. Et ça, j'en ai passé, hein, des heures.
Ok, je savais pas que c'était partie des entraînements.
Ouais, alors, je vais me faire taper sur les doigts, mais je dirais que maintenant, j'en fais beaucoup moins parce que c'est une position qui est venue naturelle. Mais au début, là, j'ai partiré depuis un petit moment. Je sais que quand je vais me remettre derrière la cara, je vais avoir des fourmis de partout parce qu'il faut juste que les muscles se réhabituent. Mais oui, quand on est gamin, moi, j'y ai passé beaucoup de temps en tir à sec, on appelle ça. En fait, on n'a pas de balle. Et on est derrière la cara et tu vises ta cible, il se passe rien. T'as juste à viser ta cible.
Un laser, ouais,
c'est non, ça. Même pas. C'est tu. Oui, maintenant. Mais maintenant il y a. Moi, à l'époque, il y avait pas. Mais maintenant, il y a effectivement pour voir comment tu arrives sur la cible, si tu fais des bonnes approches et tout ça. Mais oui, donc Thierry m'a donné ce goût du travail. Et là, je me suis dit, ok, s'il y a quelqu'un qui croit en moi, parce qu'il croyait en moi, il me disait, si tu travailles, tu vas y arriver. Bah, ça veut dire que c'est possible. Et voilà. Et à partir de là, c'était finalement. J'étais pas en groupe fédéral pendant les 4 ans, mais à la sortie, à mes 18 ans, quand j'ai eu mon bac, 19 du coup, j'ai fait le bac en 4 ans, je suis sortie dans les groupes fédéraux, et puis voilà, après c'est parti, quoi.
Ouais, c'est déjà lancé, tu savais que ça allait...
Ouais, mais déjà les 2 dernières années de lycée, j'étais presque plus là l'hiver. J'étais déjà en compète sur des Coupes d'Europe, ou c'est des championnats du monde. Voilà, je suis partie assez tôt, en fait, sur le circuit du Bay Cup. J'y suis partie assez tôt. Et puis finalement, moi, je suis arrivée en Coupe du Monde. J'avais 20 ans, ce qui est tôt, ouais. Quand même. Mais oui, c'est vraiment à Villars où j'ai senti que c'était possible.
Qu'est-ce que ça fait d'être la petite jeune qui arrive en équipe de France? Dis-moi si je dis des bêtises, mais dans mes souvenirs, L'équipe de France féminine était quand même bien en place,
oui.
Masculine aussi.
Oui.
J'avais eu une conversation avec Manon Brunet qui m'avait dit, moi, elle s'est en escrime, tu vois, que oui. Ça a été difficile de faire sa place. Comment on fait pour s'imposer quand on est la petite dernière?
Alors, effectivement,
on est la plus jeune et qu'on est un peu l'espoir du groupe.
Bah, c'était dur parce que, comme tu l'as dit, je suis arrivée dans un groupe qui était là depuis, qui n'avait pas trop bougé depuis quelques années.
Puis qui avait un super niveau. Il y avait qui?
Il y avait Marie-Laure Brunet, il y avait Marie-Dorin Haber. Anaïs Bescon, il y avait
des médailles,
Sophie Boilet, je ne voudrais pas dire, il y avait Marine Bollier, il y en avait une, et ben, moi la sixième, je suis bête, et moi la sixième, voilà. De un, je ne les connaissais pas, je les avais très peu côtoyées, on a quand même, on avait quand même pas mal d'années d'écart. Ben, on arrive sur la pointe des pieds. Hein. voilà, t'es dans la chambre avec une telle. Ok, bon, ben, je vais dans la chambre avec une telle. Et puis voilà, après, la chance que j'avais, c'est que l'entraîneur qui avait en charge les filles, c'était Thierry, qui m'avait formée. Donc c'est vrai que voilà, c'était la moule sur son rocher. Quoi. Je le connais, c'est bon, c'est déjà ça. Voilà, après, on apprend sur le tas. Hein. C'est hyper différent de l'IBA Cup. Il y a des kinés, il y a des techniciens, À l'époque, c'était encore pas très médiatisé, donc il y avait encore pas trop de caméras et tout ça, mais c'était déjà impressionnant. Oui, parce que moi, la petite là qui arrive là-dedans, qu'est-ce que je fais là? On était à 2 mois des Jeux Olympiques de Sochi, donc ça commençait un peu. Voilà, elle arrive, ok, bon. Alors moi, j'ai fait mon truc, hein. J'ai fait mon biathlon en fait. La première course, je tire à 10 sur 10 et je fais 27e. J'ai vraiment fait mon truc. Le typique Anaïs, ok, j'arrive, toute timide, je dis rien, mais ça se joue sur la course, quoi. Et à partir de là, le lendemain, la poursuite, je crois que je suis 25e. Plus les courses passaient, et plus on me disait que les Jeux, ça allait arriver, quoi. Ouais. Que j'allais être titulaire aux Jeux. Et ça, je sortais. Enfin, voilà, tout va vite, en fait. Tout va très vite. Là, pour
à
le
quel âge
coup,
à ce moment-là,
j'ai fêté mes 21 ans aux Jeux de Sochi. En étant titulaire, donc dans les 4, quoi. Donc c'était quand même assez impressionnant. Après, j'allais au jeu en me disant je vais au jeu, mais je vais jamais ramener de médaille. Enfin, ce serait stupide de rêver à ce que tu ramènes une médaille, quoi. Mais bon, on avait quand même un beau relais, donc il y avait quand même de quoi faire. Et puis puis au niveau de l'expérience, c'est juste top, quoi. Mais par contre, j'arrivais sans pression. Je vais au jeu, de toute façon. Les médailles, c'est les filles qui le feront. Moi, je suis là, j'ai aucune chance, quoi.
Mais c'est marrant parce que tu vois, sur plusieurs interviews, ça revient un peu souvent, ces premiers jeux un peu jeunes où tu arrives sans pression. Et en fait, finalement, c'est presque le meilleur souvenir.
Ouais.
Parce que tu te nourris de tout, en fait.
Il n'y
a personne
ça.
Qui t'attend. Donc, ta performance, tu vas la faire, quoi qu'il arrive.
Oui.
Mais tu essaies surtout d'emmagasiner de l'expérience, d'emmagasiner des souvenirs et aussi de profiter un peu. Ça reste quand même une fête aussi, les Jeux, quand c'est terminé. Et du coup, ça revient souvent chez les athlètes, tu vois, quand tu arrives jeune.
Ouais, puis tu te dis peut-être, sur un malentendu, on sait que sur les Jeux, tout peut arriver, quoi, en fait. Ouais. C'est la course d'un jour. Tu te dis, sur un malentendu, peut-être qu'il peut se passer quelque chose de beau, quoi.
Bon, vous, en l'occurrence, vous avez combien? 6 courses?
On a 6 courses. À l'époque, il n'y en avait que 5, je crois. Et 5. Maintenant, il y a le relais mixte qui est rentré. Ouais, donc, on a 6 courses. Ouais, ça, c'est une chance, hein, quand même, hein, d'avoir autant de chances de médaille. C'est sûr que ce n'est pas la course. C'est la course d'un jour, mais 6 fois, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Mais oui, c'est vrai que c'était des Jeux où j'ai découvert un peu le... Je ne dirais pas que ça reste mon meilleur souvenir des Jeux, parce que tous les Jeux, il y a quelque chose de chouette, quoi. Mais c'est vrai que c'est... là, pour le coup, j'étais en mode... vraiment innocence totale, quoi.
Et il y a plus de pression maintenant. Je te poserai la question aussi de ton changement de statut dans l'équipe, tu vois. Parce que maintenant, tu...
Je suis la plus vieille.
T'es la tôlière.
L'enfer.
La plus médaillée. La maman.
J'ai tout. Là, j'ai l'étiquette, quoi. Pas se tromper.
Tu l'aimes bien, ce rôle? De ce nouveau rôle de...
Enfin, j'en sais rien. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, je vais devoir le porter. Mais non.
Tu peux le laisser aussi à quelqu'un d'autre.
Oui, je peux le laisser à quelqu'un d'autre. Oui, en fait, peu m'importe. Ça ne va pas changer l'Anaïs que je suis. Mais ça me fait quand même bizarre de passer de la plus... Je suis arrivée la plus jeune et d'être la plus vieille maintenant. Ça me met un coup parce que je ne suis quand même pas si vieille.
Mais ouais, t'es encore super
jeune. J'ai même pas 30 ans. Je suis déjà la vieille.
Ouais. T'as vu, toi, une évolution un peu de. Soit sur de la performance. Bon, au niveau médiatique, tu l'as évoqué plusieurs fois. Mais c'est vrai que ces 10 dernières années, il y a eu un gros changement sur, ouais, sur le biathlon. Comment toi, tu le vis de l'intérieur ?
Bah, finalement, moi, j'ai grandi avec ce changement. Ouais. Finalement dans ma carrière, donc j'ai commencé, il y avait presque rien, et maintenant je pense qu'on est au, alors, on est peut-être pas au max de ce qu'on peut faire, mais bon, ça commence à être quand même assez sollicitant. Finalement, ma carrière, elle a évolué avec, donc ça, c'est le bon point. En vrai, ça va, parce qu'on a le média qui nous suit est hyper hyper sympa, les journalistes sont sympas, ça fait presque 4-5 ans qu'ils suivent le truc, on les connaît bien, et que quand on leur dit non, c'est non.
Ça reste familial. Ça,
voilà.
Familial, c'est peut-être le bon mot, mais...
Ils sont pas... En fait, on sait que les médias qui nous suivent, ils sont pas là pour nous trasher. Ils sont vraiment dans notre sens, et que, ouais, et que si tu veux pas répondre à une question, tu réponds pas, ils vont pas te piéger, et ça, je trouve que c'est plutôt agréable. Après, ben voilà, on est rentré dans la spirale médiatique, et on sait que tout ce qui est dit pourrait être repris par n'importe quel média et transformé... Je trouve que ça amène un peu plus de pudeur. Bon, faut vraiment que je fasse attention à ce que je dise quand même. On peut pas se lâcher autant qu'avant, et je pense que tu peux pas dire les mêmes choses qu'avant non plus.
Ouais.
Voilà.
C'est un peu le revers de la médaille.
C'est un peu le revers de la médaille. Après, on le sait, et puis on fait avec.
Ouais.
Ça va. Enfin, on n'est pas aussi. Mais c'est pas comme les footballeurs. Je veux dire, ma vie privée, elle est encore hyper privée, ouais, par rapport à d'autres athlètes, quoi. Donc. Je sors dans la rue, on me saute pas dessus. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, ça va, quoi. C'est quand même pas non plus... ça va. Mais il faudrait pas plus pour moi. Il y en a déjà bien assez.
Bah, tu vois, en fait, de l'extérieur, puis moi qui suis rentré un peu dans le monde des médias sportifs par la petite porte, tu vois, en me frayant moi-même mon chemin, j'ai l'impression que c'est le bon équilibre. Tu vois, c'est que ça professionnalise le sport, parce que bah, effectivement, il y a plus de moyens, il y a plus de médias. Vous êtes plus, un peu plus suivi, mais que ça reste un sport du coup olympique, mis en lumière au moment qu'ils sont quand même choisis, déterminés. C'est pas tous les week-ends,
non,
tu vois,
non.
Ou même.
Non, puis on est sur une chaîne publique, mais pas non plus. C'est pas un énorme média non plus. Non, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins.
Je trouve que c'est le bon équilibre.
Je trouve que c'est le bon équilibre,
mais c'est
et
bien que ça soit à ce niveau-là, tu vois.
Oui, j'aimerais pas que ce soit plus, moi. Certains athlètes peut-être aimeraient que ce soit plus, et en fait ils le font. Ils le font par leurs propres moyens, quoi. Je veux dire, ils sont plus actifs sur les réseaux, ou ils acceptent plus d'interviews, ils acceptent plus de, j'en sais rien, moi, de contenu sur des vidéos, des choses comme ça.
Plus de partenaires. Plus
et
tout,
plus de partenaires, oui, exactement. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est d'avoir le choix. C'est d'avoir le choix de dire, ben, moi, mes partenaires, et ils sont triés sur le volet. C'est des partenaires avec qui j'ai très envie de travailler, qu'on a une relation amicale, et ça me va très bien, et c'est pas de l'industriel à faire des choses, voilà, à donner 5 journées par an, 6 journées par an, ça m'intéresse pas. Moi, voilà, je suis avec des partenaires que je choisis, et c'est très bien, ça me va très bien. Mais ceux qui veulent autre chose, on peut faire autre chose, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est d'avoir le choix.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.